Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marie-Béatrice Lahorgue.
Bonjour, nous allons parler autorité administrative indépendante aujourd'hui en compagnie du professeur Roland Drago. Professeur, bonjour.
Bonjour madame.
Je rappelle à nos fidèles auditeurs, mais est-ce bien utile, que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1990, dans la section législation, droit public et jurisprudence. Vous êtes agrégé des facultés de droit, secrétaire général de l'Académie internationale de droit comparé, président du tribunal suprême de la principauté de Monaco, et puis vous exercez aussi plusieurs autres fonctions, en particulier dans le domaine de l'édition juridique et en particulier la co-direction de l'illustrissime encyclopédie Dalloz. Et vous appartenez aussi au comité de rédaction de la Revue internationale de droit comparé, de la Revue française d'administration publique, la Revue administration. Je m'arrête là.
Oui, certainement, vous avez dit beaucoup trop.
Votre biographie est bien plus étoffée encore pour aborder immédiatement le cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui, les autorités administratives indépendantes. Aujourd'hui, le premier volet d'une saga, en quelque sorte, en trois émissions. La première qui dressera le portrait robot de ces autorités et les questions qui ne manquent pas, évidemment, de l'accompagner. La seconde émission abordera plus particulièrement la question de la régulation, finalement. Pourquoi une régulation? À quoi sert-il de réguler? Que régule-t-on? Avec en particulier la question des compétences réglementaires de ces autorités. Et puis une troisième et dernière question qui sera abordée autour d'un thème, et comment ne pas le faire dans cette année 2008, thème qui est celui de l'Europe et du devenir de cette structure d'autorité administrative dans le cadre du futur cadre posé par le traité de Lisbonne, mais aussi, nous le verrons, dans le cadre de la révision, réforme possible, probable, des institutions de la République française.
Bien, c'est très bien, c'est très bien. Vous avez choisi un plan qui est tout à fait parfait. Je trouve qu'on pourra parler de cette question, qui est peu connue peut-être dans la société, mais qui mérite d'être traité et qui a été d'ailleurs déjà traité par les juristes et qui a fait l'objet d'ailleurs dans la jurisprudence du Conseil d'État de décisions récentes et importantes.
Tout d'abord, donc, tentons de dresser ce que je me suis permise d'appeler le portrait robot d'une autorité administrative indépendante. Il y a quelques 30 ans maintenant que les autorités administratives indépendantes sont apparues avec la création de la CNIL.
Oui.
Plus particulièrement. Et depuis, la formule, il faut bien le dire, des autorités administratives indépendantes a connu un indéniable succès. Je relisais en préparant cette émission le rapport de M. Patrice Gélard en juin 2006, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, qui en avait recensé 39. 2008, nous en sommes à combien? Où en est-on particulièrement de ces AI? Est-ce qu'on peut parler d'un inventaire
alors,
à la Prévert?
Le chiffre, on peut dire actuellement, selon moi, le dernier chiffre connu était 55. Je pense qu'on pourrait arriver à la soixantaine, disons une soixantaine. Il y a une chose que je voudrais dire surtout, c'est que c'est une institution, un type d'institution avec des noms différents qui est apparu dans le monde entier. C'est une pratique qui est devenue quelque chose de très connu. Et le terme qui est le plus souvent employé est le terme QUANGO, qui est une des initiales en langue anglaise, Quasi Autonomous Non-Governmental Organizations. Et vous en avez maintenant partout, quelle que soit la nature du système juridique, du système politique, qui soit plus ou moins évolué. Il y a une sorte de mode, et quand il y a une mode, il est évident que les choses se répandent d'un endroit à un autre, et que c'est ce qui s'est produit dans le monde entier à l'heure actuelle. Or, ce qu'il faut dire, c'est que ces institutions ne relevaient pas, finalement, d'une sorte de logique de création des systèmes gouvernementaux. Si vous prenez la France, le système administratif de la France, c'est l'État, divisé en communes, regroupé en départements, en régions, depuis qu'il existe des régions. Et voilà quel est le système si on envisage l'aspect purement géographique. Au-delà, il y a d'autres institutions administratives qui apparaissent et qui sont les établissements publics, qui, eux, ont été prévues dès le Code civil et qui, par conséquent, ont une existence ancienne. C'est le cas des universités, c'est le cas des hôpitaux. Il y a beaucoup d'exemples d'établissements publics à l'heure actuelle, encore que, comme ça on l'avait lié à un certain moment à la politique de nationalisation, le nombre des établissements publics industriels et commerciaux qui existaient est en train de se réduire, quitte presque à aboutir à l'inexistence complète dans ce domaine. En revanche, les autorités administratives indépendantes n'existaient pas parce que les ministres étaient évidemment assistés de conseils dont ils prenaient les avis, qui ensuite restaient de façon relativement stable, mais c'était des conseils qui n'avaient aucun pouvoir de décision. Ce qui est important, et vous l'avez dit vous-même à l'instant, c'est que ces autorités, elles, prennent, elles, des décisions.
Alors, qu'est-ce qui distingue, justement, dès leur création, ces autorités administratives indépendantes des autres établissements publics ?
Ah bien, les établissements publics ont par définition la personnalité juridique. Les autorités administratives indépendantes l'ont quelquefois. D'ailleurs, ce sont celles qu'on appelle haute autorité. Je me demande s'il n'y a pas une coïncidence entre l'expression haute autorité et la personnalité juridique, mais c'est un procédé qui a été utilisé au début avec des particularités sur lesquelles je vais revenir, et c'est un système qui a été utilisé principalement pour le Conseil de la concurrence qui a la personnalité juridique. Et pourquoi l'a-t-on fait ? Parce que justement, on pense que s'ils ont la personnalité juridique, non seulement ça leur permettra d'agir dans la vie courante, mais ça n'est pas tellement cela qui peut être important pour elles, c'est surtout parce que ça accroîtra leur indépendance. Le problème de l'indépendance est évidemment, l'indépendance théorique, est évidemment un problème majeur.
L'indépendance par rapport à qui ? Par rapport à quoi, justement ?
Eh bien, alors, comme les tribunaux, c'est-à-dire qu'on pense malgré tout aux tribunaux, et il ne faudrait pas croire que ce sont des tribunaux, ce ne sont pas des tribunaux à aucun point de vue, il n'y a pas de confusion possible, une indépendance est à l'égard de l'administration et à l'égard de l'État, et à l'égard, évidemment, des personnes qui font l'objet de ces autorités administratives indépendantes, soit qu'elles puissent s'adresser à elles pour se plaindre, soit qu'elles fassent l'objet de sanctions de leur part. Et par conséquent, une indépendance qui serait complète, et d'ailleurs, on peut supposer que dans l'ensemble, elle l'est, et on peut espérer aussi qu'elle l'est dans le monde entier où existent ces institutions, mais ça n'est pas sûr, et quelquefois, il peut y avoir des chevauchements, et avec un rappel du système ancien qui était que toute autorité de ce type dépendait nécessairement pour la décision d'une autorité administrative faisant partie de la hiérarchie administrative normale.
Clairement. Alors, c'est en fait une forme, une sorte de nouveau mode d'exercice du pouvoir exécutif, quelque
part,
parce que vous
alors, vous avez raison, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Or, le problème qui se pose et qui va peut-être se poser dans quelques temps, c'est, je veux savoir, de connaître leur situation au regard de la Constitution, car la Constitution détermine les organes du pouvoir exécutif, c'est bien entendu au niveau national les ministres, et c'est tout, ou leurs délégataires, et que par conséquent des institutions de ce genre qui apparaissent à côté, il y en avait des exemples, si on pense par exemple aux ordres d'avocats qui sont anciens, aux ordres de médecins qui sont plus récents, ces ordres professionnels se gèrent eux-mêmes et agissent évidemment dans un domaine qui est largement un domaine public, mais c'est une profession et on est dans une situation très différente. Dans ce cas-là, c'est autre chose qui est en cause.
Alors, on assiste à quoi finalement avec ce nouveau mode d'exercice du pouvoir exécutif ? C'est le symptôme d'un État en crise ou c'est, après le constat d'un État en crise, l'émergence d'un remède ?
Je ne crois pas que ce soit le constat d'un État en crise, parce que ça ne signifie pas qu'on veut réagir contre d'autres actions, mais ça veut dire qu'on se rend compte que les États sont amenés, non pas à gérer cette fois, non pas à gérer, mais à contrôler et à introduire des règles normales dans des professions ou dans des actions ou dans des situations économiques ou sociales auxquelles les États se trouvent confrontés à l'époque actuelle. Je pense que c'est ça. Il s'agit de régler de façon autonome de nouveaux problèmes ou des problèmes dont l'importance a encore accru en ce qui concerne les États. Car, voyez-vous, les autorités administratives indépendantes, on va en parler dans un instant, et je ne veux pas modifier le déroulement du débat, se situent dans des domaines qui sont très significatifs de ce point de vue.
Alors justement, les domaines, les pouvoirs d'abord, une autorité administrative indépendante, parce que leurs pouvoirs peuvent être extrêmement variables, leur composition collégiale ou non, elle s'appelle parfois autorité administrative indépendante, parfois autrement. Il y a un portrait robot qui est difficile à dresser. Si vous pouvez
alors, je vais vous dire quelle définition. Je vais vous dire quelle définition on peut leur donner, et ensuite donner les exemples des domaines dans lesquels on les rencontre. Et c'est après seulement qu'on pourra parler de ce que vous demandez maintenant. La définition dans le droit français pour les autorités administratives indépendantes, c'est que ce sont des institutions créé par la loi, ça c'est une chose qui est dominante. On ne peut pas créer une autorité administrative indépendante sans qu'elle soit créée par la loi. Elle est créée par la loi, elle est dirigée par un conseil délibérant, c'est-à-dire que aussi le pluralisme est également une sorte de donnée majeure, bien que ça ne soit pas l'objet d'une constatation quelle qu'elle soit, composée de personnalités indépendantes, souvent dotée de la personnalité juridique dont vous avez parlé, est chargée de gérer un secteur de la vie nationale dans le domaine économique, technique, social, politique, intellectuel, et qui n'est pas soumis à la hiérarchie ministérielle. Voilà la définition qu'on pourrait donner, qui fait apparaître évidemment des institutions nouvelles par rapport aux personnes publiques classiques, les départements, les communes, les établissements publics. C'est ça qui est l'élément le plus intéressant. Et alors, évidemment, une tendance qui est peut-être une tendance liée à l'innovation, c'est qu'il y a une orientation vers la pluralité en ce qui concerne ces autorités administratives indépendantes. Il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus en France, et il y en a de plus en plus dans le monde entier, dans tous les États du monde. On voit apparaître cet organisme qui est peut-être un moyen de non seulement de moderniser l'État, mais peut-être de sauver un certain nombre de fonctions qu'il a dans l'État et qu'il ne pouvait pas exercer directement par ses procédés anciens. C'est peut-être une question, je n'ai pas la réponse encore de façon précise.
Donc on est moins quand même face à un phénomène de mode que vers une mutation, finalement, une transformation, peut-être une vraie rénovation du rôle de l'État régulateur, en quelque sorte.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison, et c'est bien dans ce domaine, parce que si vous prenez le cas d'un organisme qui fonctionne maintenant depuis assez longtemps, qui est le Conseil de la concurrence, vous êtes tout à fait en présence d'une institution de ce genre. Alors, le Conseil de la concurrence a des caractéristiques particulières, mais il est une autorité administrative indépendante. J'ajoute qu'il peut même y avoir une seule personne qui soit une autorité administrative indépendante, et c'est la seule, c'est le médiateur. Le médiateur, la France était très hostile au système du médiateur, et puis elle a fini par s'y plier il y a maintenant une quarantaine d'années. Et le médiateur de la République, actuellement, est une autorité administrative indépendante, il est classé comme tel. Or, il est seul, même s'il est assisté,
oui,
évidemment, mais il n'est assisté que d'exécutants, il n'est pas assisté d'un conseil, par exemple. Et on a tenu peut-être justement, pour lui seul, à ce que ce soit quelqu'un qui puisse avoir la responsabilité majeure de toutes les décisions qu'il est amené à prendre.
Est-ce que la démultiplication de ces autorités administratives indépendantes, en particulier depuis les années 2003, je dirais, vers des secteurs d'intervention économique, hein, en particulier à un moment où le secteur de l'énergie va s'ouvrir à la concurrence, les postes et télécommunications. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ici le spectre d'une nouvelle mainmise sur l'économie
alors,
de
vous
nouveaux
avez,
acteurs
vraiment, vous
là,
avez
on
dit,
est
vous
en
avez
toute objectivité.
Dit, vous avez dit ce qu'il fallait, parce que si vous prenez l'exemple des chemins de fer, de l'électricité et de la poste et du téléphone, tels que vous les avez pris, on a été amené, quand on a voulu privatiser, avec des guillemets, ces institutions, à séparer le moyen d'action du support. Et c'est pourquoi on a créé deux institutions qui succèdent à l'ancienne SNCF. On a créé deux institutions qui succède aux anciennes postes et télécommunications, etc., etc. C'est-à-dire une qui gère les biens et les éléments de travail, et l'autre qui gère le service et éventuellement son personnel. Et par conséquent, on est là en présence d'une situation un peu comparable, car on peut dire, et il y a, on a créé aussi des autorités administratives indépendantes, en supposant que justement dans ces trois domaines, qui sont des domaines majeurs où les services publics sont encore quand même très importants, en tout cas très connus, eh bien, il y a des autorités administratives indépendantes dans chaque cas qui sont amenées à traiter les conflits qui sont nés de cette transformation. Là, c'est peut-être un cas très particulier pour mes trois cas qui sont quand même majeurs, les chemins de fer, la poste et les télécommunications. Eh bien, dans ce cas-là, on est en présence d'autorités administratives indépendantes nouvelles qui sont assez différentes de celles qu'on peut rencontrer maintenant et que vous connaissez, dont vous avez déjà cité quelques exemples.
Alors, autre phénomène de mode peut-être, ou d'actualité en tout cas, qui vise les autorités administratives indépendantes, l'émergence, on en a beaucoup entendu parler cette année avec le Grenelle de l'environnement en particulier, de la démocratie dite participative. On voit clairement que dans un souci de pragmatisme d'ailleurs, les normes qui sont produites par une majorité des autorités administratives indépendantes le sont presque systématiquement au terme de procédures quand même très poussées en termes de consultation, en termes de débat, en termes de dialogue. En un mot, en fait, elles associent quasi systématiquement quand même les destinataires de la norme, si je puis dire, à sa confection. Comment vous percevez aujourd'hui, face à l'émergence de cette démocratie participative, l'articulation entre la démocratie représentative et les contraintes constitutionnelles que vous avez rappelées tout à l'heure, obligatoires pour ces autorités administratives indépendantes, et l'émergence de la démocratie participative?
Je crois que dans ce cas-là, il faudrait établir une typologie des autorités administratives indépendantes. Il y en a quelques-unes qui sont en effet dans le sens que vous venez de décrire, et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Si vous prenez le cas du Conseil de la concurrence, je parle du Conseil de la concurrence parce qu'il a beaucoup d'importance et que surtout je l'ai bien étudié par rapport à d'autres, on n'est pas en présence d'une situation de démocratie participative. En revanche, quand vous prenez même les exemples que je prenais tout à l'heure à propos des anciens services publics, en effet, là, on est en présence d'un système qui participe de certaines façons des situations que vous envisagez. Mais il faut maintenant revenir à une question que j'ai écartée tout à l'heure et que vous aviez citée et à laquelle vous avez attaché à juste titre de l'importance, c'est de savoir quels sont ces pouvoirs des autorités. On parlera aussi de la composition, de l'autonomie, de l'indépendance des membres, etc. Mais les pouvoirs sont des pouvoirs qui, dans le monde entier, sont à peu près pareils, avec quelquefois des trous, mais qui sont l'avis, la proposition, le conseil, fonction qui pouvait auparavant être occupée par des conseils assistant les ministres et qui étaient fort nombreux. Mais plus encore, alors après, l'étude des situations individuelles d'entreprises, principalement d'entreprises, mais aussi d'individus. Et puis, l'élaboration de règles générales, la sanction, et la sanction très importante, comme pour revenir encore au Conseil de la concurrence, des millions de sanctions qui sont infligées, avec évidemment à la fin un problème qui est très important et qui lui n'est résolu que partiellement, c'est le problème du contrôle de l'action de ces autorités.
Sur lesquelles nous reviendrons bien sûr. Ces autorités doivent leur nomination essentiellement à leurs compétences techniques, vous venez de le souligner d'ailleurs, aussi bien on le voit dans la complexité, la disparité des normes qu'elles sont susceptibles d'édicter, des décisions prises. Elles ont pour vocation première à être des collèges d'experts. Comment on va pouvoir marier, si je puis dire, ces experts et le profane finalement que nous sommes tous, ou qu'est en tout cas le citoyen, dans bien des débats, et je pense en particulier les débats économiques qui sont actuellement les champs d'intervention privilégiés de ces autorités.
Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a une chose qu'il faut dire avant tout à propos de ces experts, c'est que sauf des exceptions rarissimes, ils ne sont pas élus. Ils pourraient être élus par les membres du métier auquel ils appartiennent. Ça arrive, mais c'est très rare. Les experts sont nommés. ils sont nommés par le gouvernement. Alors, par la suite, ils ont tous, avec des variantes, un statut qui est un statut d'indépendance, assurant leur indépendance de façon très complète, avec énormément, quelquefois, de règles juridiques très précises en ce qui concerne leur contact avec l'extérieur, le contact avec le personnel, même les degrés de personnel, etc. Mais il y a cette dominante qui me paraît quand même très caractéristique, c'est que, alors qu'on pourrait considérer dans un pays démocratique où les communes, les départements, les régions sont administrés par des organes élus et au suffrage universel. Au contraire, dans ce cas-là, l'élection n'a jamais été conçue pour composer les conseils qui font partie des organes délibérants des autorités administratives. Et vous l'avez dit vous-même, c'est parce qu'il s'agit d'une question de compétence. Oui. Et ça, c'est très, très important et très inattendu, finalement, dans un pays et démocratique, que ces instances soient nées, qu'elles soient indépendantes, mais que leurs membres ne soient pas élus.
Professeur, merci. Nous allons faire une courte pause avant de revenir sur ce qu'il convient d'appeler, face à cette expertise, la planète des sages. La planète des sages, professeur Drago, parlons-en un peu, en référence bien sûr à un qualificatif donné aux autorités administratives indépendantes par Thierry Thiot, qui a récemment, effectivement, en référence au roman de science-fiction écrit en 1963 par Pierre Boulle, La planète des singes, qualifié l'ensemble des autorités administratives indépendantes, en particulier au regard de la question de l'expertise théoriquement garante d'impartialité, de planète des sages. Lorsque nous relisons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au terme de son article 15, il est précisé que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Autrement dit, l'indépendance reconnue aux autorités administratives indépendantes, qui est d'ailleurs très clairement, nous l'avons précédemment rappelé, l'une de leurs raisons d'être, n'est jamais allée jusqu'à les soustraire à tout mécanisme de contrôle démocratique. Le Conseil d'État, dans son rapport public de 2001, soulignait d'ailleurs « l'indépendance ne saurait justifier et signifier l'irresponsabilité ». En fait, professeur, si l'on examine la palette des contrôles qui sont classiquement exercés sur tous les corps de l'administration française, pour les autorités administratives indépendantes, seuls les contrôles administratifs disparaîtraient. Est-ce que mon analyse est juste ou...
Oh, vous posez une question qui est une question majeure. C'est la question, en effet, du contrôle des autorités administratives indépendantes, parce que c'est une question qui est fondamentale, et elle l'est dans tous les pays du monde, mais elle est spécialement en France. Nous avons un système dont on est très fier, de contrôle de l'administration par une juridiction administrative elle-même, qui a plus de 200 ans maintenant, et qui a toutes sortes de caractéristiques, qui sont des caractéristiques très particulières, et qui a abouti, en effet, à créer dans le système juridique français une situation de régulation, une situation de régularité qui est très importante par rapport à beaucoup d'autres pays, même dans les pays de common law. Mais justement, ce problème-là, il a peut-être été un de ceux qui ont été le moins étudiés au départ. C'est le problème du contrôle des décisions. Parce que les autorités soient indépendantes, que les membres ne soient pas élus, mais qu'ils aient un statut d'indépendance, qu'ils aient des pouvoirs importants, nous l'avons déjà dit et on y reviendra. Mais le problème est de savoir s'il y a un juge qui peut les contrôler. Alors là, auparavant, c'est peut-être pas un juge dans ce cas-là, mais je dis cela pour qu'on ne l'oublie pas. Si on regarde la Constitution, l'autorité exécutive sous l'autorité du président de la République est détenue par les ministres. Les représentants de l'État sont les ministres ou leurs délégataires. Je ne parle pas des collectivités locales où les représentants sont autres, mais également désignés dans la Constitution. Et par conséquent, on pourrait dire que les ministres, qui sont donc les exécutants normaux du pouvoir exécutif, ont perdu quelque chose avec la création des autorités administratives indépendantes. La question n'a jamais été présentée de cette façon, parce qu'après tout, elles sont créées par la loi, et ça, la création par la loi est une évidence. Mais on pourrait se demander un jour si cette loi est conforme à la Constitution, vous le voyez. Mais considérons que ça, c'est une vision qui est peut-être un peu trop générale et peut-être qui n'est pas exacte. Mais je reviens maintenant au contrôle, et par conséquent, toute autorité administrative indépendante, surtout quand elle prend des pouvoirs, quand elle prend des décisions qui sont très exécutoires, doit pouvoir être soumise au contrôle d'un juge. Or, il s'est passé une chose tout à fait intéressante, même amusante par certains côtés, et qui s'est produite lorsqu'on a, libérer complètement les prix, créer ou transformer une commission qui existait jusque-là, et créer le Conseil de la concurrence. Quand on a créé le Conseil de la concurrence, avec les pouvoirs très importants qu'il a et sur lesquels on pourra revenir, parce que c'est celui qui me paraît vraiment le plus significatif. Beaucoup de gens ont dit dans les milieux du commerce et de l'industrie, c'est une situation qui évite évidemment les problèmes de concentration, qui évite également les problèmes de monopole. Donc, nous sommes tout à fait d'accord, puisque c'est une autorité administrative, il va être soumis au contrôle du Conseil d'État, qui n'est peut-être pas l'organisme rêvé pour connaître des problèmes de ce genre. Pourquoi ne pas le faire relever de la juridiction judiciaire? Le gouvernement l'a proposé et ceci a été rejeté au moment du vote de la loi, parce qu'on craignait en même temps la sanction du Conseil constitutionnel. Et puis, la loi étant votée, 3 mois plus tard, une modification à cette loi a été décidée par le gouvernement et il a été décidé par une loi modificative que les décisions du Conseil de la concurrence, comme d'ailleurs plus tard celles du Conseil des marchés financiers, relèveraient non pas du Conseil d'État, mais relèveraient de la Cour d'appel de Paris. En recours, pas d'appel, et ensuite, évidemment, le pourvoi en cassation. Donc, la Cour d'appel de Paris a donc été considérée comme le juge normal de ces institutions. La question a été portée devant le Conseil constitutionnel. Et évidemment, l'argument majeur qui était invoqué, et qui était invoqué par des avocats notamment, c'était qu'on était dans une matière administrative qui ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction ordinaire. Le Conseil constitutionnel a répondu en disant que s'il s'était agi d'un recours pour excès de pouvoir au sens étroit du terme, en effet, là, il apparaît qu'il ressort des principes constitutionnels que seul le juge administratif est compétent. Mais que comme il ne s'agit pas d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, eh bien, on n'est pas en présence d'un principe de nature constitutionnelle et qu'il peut donc y avoir des dérogations à la compétence administrative dans ce domaine. Et ça a donc été admis. Et depuis cette époque, la Cour d'appel de Paris a créé une section spéciale de sa première commission. Et le système fonctionne très bien. Il n'empêche que, vous le voyez, ce problème du contrôle suppose une particulière attention. Et je le vois à propos de la Halde dont nous parlions, que le Conseil d'État s'est déclaré incompétent à 3 reprises et dans des sens différents de la part des parties, des requérants, pour statuer sur les recommandations de la Halde. Donc voilà, la Halde qui se trouve soumise à aucun contrôle dans ce domaine.
On peut renvoyer en particulier nos auditeurs juristes à l'actualité.
C'est exactement, oui.
Juridique de droit administratif.
Oui, c'est en novembre 2007, voilà. C'est-à-dire que c'est extrêmement proche.
Tout à fait. Contrôle juridictionnel, donc on le voit. tabou ou non de parler du contrôle des comptes aussi, puisque on a souligné tout à l'heure les anachronismes, je dirais, du principe d'indépendance au regard du mode d'élection ou de désignation. Les articles L111 et suivants du Code des juridictions financières précisent aussi que la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Alors, qu'en est-il des autorités administratives indépendantes?
Vous avez raison, vous avez raison. Alors là, je dois dire qu'on n'y a pratiquement jamais pensé. Peut-être y penserait-on un jour, mais en considérant que les comptes de ces autorités indépendantes, quand elles ont la personnalité juridique, bien entendu, mais même quand elles ne l'ont pas, parce que même quand elles ne l'ont pas, elles ont quand même un système financier particulier qui les place sous le contrôle, bien entendu, des trésoriers et payeurs généraux, probablement, mais il n'empêche qu'il y a une possibilité de contrôle. La question ne s'est pas posée. En revanche, donc, il est admis actuellement que le contrôle par la Cour d'appel de Paris, ce qui est quand même curieux parce qu'elle a une compétence territoriale, n'est-ce pas, hein, que la, peut-être, ça vaut pour le Conseil des marchés financiers, le Conseil de la concurrence et encore une ou deux autres qui sont moins importantes mais que j'ai oubliées pour le moment. Les autres relèvent normalement du juge administratif, mais à condition qu'elle formule des décisions au sens strict du droit administratif, parce que sinon, s'il ne s'agit que de mesures du genre de celles dont il est question tout à l'heure pour la HALDE, elle a considéré qu'elle n'était pas compétente. Et elle l'a été avec des arguments qui sont quand même peut-être un peu discutables, comme d'ailleurs était discutable la décision du Conseil constitutionnel quand il a dit que seul pour l'excès de pouvoir, le Conseil d'État était compétent, car même, alors, depuis très longtemps, les juges pénaux, vous le savez comme moi, peuvent apprécier la légalité des actes administratifs, non seulement réglementaires dans le passé, mais aujourd'hui aussi bien réglementaires qu'individuels. Par conséquent, ils se trouvent, eux, dans une situation qui est aussi inconstitutionnelle, en accueillant des recours contre des actes administratifs. Voilà. Donc, on est en présence d'un système qui, pour ce qui concerne le contrôle juridictionnel, c'est-à-dire la nature même des décisions, pose des problèmes qui ne sont pas négligeables du tout. Alors, bien entendu, quand il s'agit d'avis, la question ne se pose pas. Dans ce cas-là, d'ailleurs, l'avis concerne le ministre et c'est le ministre qui prend la décision. Il arrive encore souvent, et c'est très normal, que beaucoup d'avis ou d'opinions des autorités administratives indépendantes ne puissent être exécutées que si le ministre a donné son accord. Elles restent encore sous la tutelle, si l'on veut, mais avec une tutelle un peu très spéciale, du ministre compétent ou des ministres compétents. Mais il y a beaucoup de cas dans lesquels elles statuent directement, et elles statuent directement parce qu'elles sont sous l'égide, le plus souvent, sauf le médiateur qui est tout seul, d'un collège. Le mot collège est employé, ce qui est encore une référence à l'origine historique, n'est-ce pas, latine, collegium, c'est un collège et qui est souvent très important. Il y en a 11 à la HALDE dont on parlait, mais il y en a beaucoup plus, il y en a 20 au Conseil de la concurrence, etc. Et par conséquent, ce problème du collège, dont les membres, je le répète, parce que ça paraît être un problème majeur, dont les membres ne sont pas élus, ce collège est un élément dominant de la question. On le voit par exemple à propos de la Haute Autorité de la Santé. Cette Haute Autorité de la Santé, nous l'étudions actuellement à l'Académie des sciences morales en accord avec l'Académie nationale de médecine, parce qu'elle pose des problèmes immenses concernant la médecine en France, puisque pratiquement toute la médecine se trouve entre les mains des 7 commissions de cette Haute Autorité de la Santé, qui, elle, a toutes les caractéristiques. Les membres sont nommés. Il y a 7 commissions, dont une qui est la commission de la concurrence, qui a un collège qui délibère sur un ensemble de problèmes. Donc, vous voyez, on est en présence progressivement. Le problème de la médecine a été la création de la Haute Autorité de la médecine a eu comme motif le fait qu'il y avait déjà beaucoup de commissions qui s'occupaient de la médecine et qu'il fallait les regrouper et les simplifier. En fait, la plupart ont continué à exister, sauf quelques-unes ont été intégrées dans la nouvelle haute autorité, et on est en présence pour la médecine, et c'est une chose considérable, pour la santé en général, d'un organisme de gestion entièrement entre les mains d'une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité de Santé.
Alors justement, c'est surprenant de constater sur la question du médiateur, dont vous avez rappelé que c'est bien une autorité administrative indépendante, au moment même où la réforme de la justice qui a été adoptée, en ce qui concerne en particulier le pôle d'instruction, le juge d'instruction, tend à ce que la France mette en place des organes collégiaux, on a le médiateur, qui est l'élément le plus illustrant de la démocratie participative ou du recours que le citoyen peut avoir, en tout cas le plus direct au plus haut niveau. Et là, on n'a plus de collégialité. Alors,
Alors là, pour le médiateur...
Ça s'explique comment ?
Eh bien, c'est une mode encore, vous comprenez. Le problème est là, une autre mode. Le médiateur remonte, si on veut voir le problème dans son origine, à l'ombudsman suédois qui est apparu dans la Constitution, qui a été faite après l'arrivée de Bernadotte à la monarchie suédoise, c'est-à-dire vers 1808, quelque chose comme ça. À ce moment-là, le Parlement suédois considérait que le roi n'étant pas suédois pouvait quand même être dangereux, et il a voulu que les particuliers puissent se plaindre à un monsieur qu'on a nommé à ce moment-là, et l'ombudsman a été nommé, ça veut dire, je pense, en suédois, homme dans lequel on a confiance, je ne sais pas très bien. Cet ombudsman a fonctionné pendant tout le XIXe siècle, dans la Suède seule, sans que personne en parle dans le monde entier. Et puis, c'était quand même intéressant qu'on puisse aller devant le médiateur, devant l'ombudsman, donc à l'époque, devant l'ombudsman, pour se plaindre des décisions prises par le gouvernement ou le Parlement. On se passe au XXe siècle, et à ce moment-là, au milieu du XXe siècle, il y a des incidences qui se produisent à l'égard de la Norvège et du Danemark, c'était des États proches de la Suède, et on y crée un ombudsman, et celui du Danemark avait comme épouse une femme qui était dans un métier de publicité. Elle a fait une publicité considérable à la fonction du médiateur, et l'ombudsman, maintenant, est devenu... La France a résisté tant qu'elle a pu. Elle disait, nous, notre ombudsman, c'est le Conseil d'État. Mais la France a fini par craquer aussi. Elle a craqué vers la fin des années 70, si je ne m'abuse. Et par conséquent, maintenant, il y a dans le monde entier des ombudsmans, comme il y a dans le monde entier des autorités administratives indépendantes. Vous voyez comment les choses peuvent se faire, n'est-ce pas, de façon... Voilà une institution qui avait duré un siècle et demi sans être connue de quiconque, n'est-ce pas, alors qu'elle avait une caractéristique très particulière. Eh bien, c'est un peu la même chose. Sauf que là, le modèle, au point de départ, quel est le modèle de l'autorité administrative indépendante? On pourrait, en cherchant bien, en trouver, par exemple, les conseils des chambres de commerce ont quand même des pouvoirs importants et elles existent quand même depuis la fin du XIXe siècle, etc. On pourrait trouver des organes délibérants. Les organismes qui gèrent les ordres professionnels peuvent aussi être considérés comme des organes délibérants, mais eux sont élus, entre parenthèses, les chambres de commerce aussi, d'ailleurs. Donc, ici, c'est donc quand même quelque chose de très différent, et le fait qu'il n'y ait pas d'élus, très peu d'élus, quelquefois, mais c'est rarissime, c'est quelque chose de très spécifique, n'est-ce pas?
Professeur, nous allons faire une courte pause et puis nous reviendrons à cette question d'électeurs et d'élections des autorités administratives indépendantes.
Winters Eis, des ganzen Winters Eis.
Professeur, nous avons fini il y a quelques instants en évoquant la question du médiateur. Cette question du médiateur, bien évidemment, elle replace le citoyen, je dirais, au cœur d'un dispositif spécifique. Le juge constitutionnel a clairement, dans plusieurs décisions, rangé les autorités administratives indépendantes parmi les administrations de l'État, dont le gouvernement, conformément à la Constitution, est normalement responsable devant le Parlement. Comment s'exerce justement ce contrôle parlementaire ? Nous avons parlé du contrôle juridictionnel, nous avons évoqué sans l'égratigner la question du contrôle des comptes, si je puis dire. Alors, le contrôle parlementaire en la matière, en France justement, il s'exerce comment sur ces autorités administratives ?
Alors, avant d'en venir là, je voudrais vous dire dans quel domaine il y a des autorités administratives indépendantes. Je vois, d'après cette liste-là, mais elle est très incomplète. L'autorité de régulation des communications électriques, l'Agence des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, n'est-ce pas ? Ensuite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, même chose, vous voyez. Et alors, on voit très bien le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Tout récemment créé, oui.
Voilà, oui. Tout récemment créé. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et l'égalité, c'est la HALDE dont on a parlé, le médiateur de la République. Vous voyez qu'il y a une très grande variété avec des noms et toujours des initiales qu'il faut retrouver. C'est quand même extrêmement curieux je répète, à mon avis, il y en a maintenant une soixantaine à peu près. Et je pense qu'on a dû quand même se rendre compte qu'il ne fallait pas trop étendre le... Mais quelles sont les matières sur lesquelles elles portent ? Vous voyez, ce sont des matières très importantes. La concurrence, avec tous les effets sur le plan du communautaire et international. Le marché financier et la bourse, encore même chose. Ensuite, le problème de la radio, de la télévision. Vous voyez, il y a... les postes et télécommunications, vous voyez, ça porte sur toute une série de matières qui, chacune, ressortit à un ministère. Et dans quelle position se trouve le ministre par rapport à ses autorités ? Je pense qu'il doit y avoir plusieurs types de réactions. Il doit penser que, d'une part, ça n'entame pas ses pouvoirs, auquel cas il se trompe peut-être, et d'autre part, il va essayer d'avoir de très bonnes relations avec ses autorités en considérant qu'elles dépendent plus ou moins de lui, même si elles ne lui sont pas subordonnées, et ça n'a jamais été en question à ce sujet. Alors, comment le problème pourrait-il se poser s'il y avait un contrôle parlementaire sur ce point, que ce soit un contrôle financier, mais surtout un contrôle sur le fond? Eh bien, je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi, à ma connaissance, je ne connais pas d'intervention parlementaire, par exemple de questions écrites ou de questions orales des députés, sur les autorités administratives indépendantes. Elles ont une sorte de valeur de pureté en raison du fait que leurs membres sont considérés comme étant compétents et par conséquent, on doit considérer qu'il y a là une sorte de mythe qui est en train de se mettre en place. Je ne dis pas qu'il soit faux. On va revenir sur le problème de la nomination et de la compétence, mais je vois que souvent, quand la haute autorité est importante, je le vois pour la haute autorité de santé, elle délègue ses pouvoirs, les autorités, le collège de l'autorité délègue ses pouvoirs à des commissions. Ces commissions délèguent elles-mêmes ce pouvoir à des collèges qu'elles ont elles-mêmes. Vous voyez, une suite de collèges, ça suppose extraordinaire. La Haute Autorité de Santé, elle a 800 fonctionnaires qui travaillent pour elle et 3000 experts qui ont recours à elle. C'est extraordinaire. On arrive là à créer de véritables sorte de ministère, en quelque sorte, avec des pouvoirs beaucoup plus importants qu'un ministère, et alors que les ministères subsistent, et qu'ils subsistent parce qu'il faut qu'il y en ait en vertu de la Constitution. On est en présence, alors il ne faut peut-être pas exagérer, bien entendu, parce que ce serait absurde, il y a une sorte de sagesse qui est née de tout cela, mais cette sagesse, elle peut aussi dissimuler une orientation, c'est-à-dire une absence d'indépendance dans les prises de décision de la part de ces autorités. C'est là que peut se trouver le danger qu'on est susceptible de rencontrer à cette occasion.
Oui, et clairement, vous l'avez rappelé au début de cette émission, c'est le législateur qui a le pouvoir de vie sur les autorités administratives indépendantes. Il peut très bien ancrer finalement dans tous les domaines de l'article 34 de la Constitution, donc pourquoi pas bientôt dans l'environnement, puisqu'on a vu qu'à l'issue du groupe numéro 5 du Grenelle de l'environnement, les citoyens consultés, les associations, les représentants de la société civile souhaitaient la création d'une haute autorité de l'expertise, par exemple. Est-ce qu'aussi ce phénomène ne va pas s'accentuer avec, on le voit, la tendance du législateur à créer depuis 2003 au premier chef duquel il y avait l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a remplacé la COB et le Conseil des marchés financiers, a créé ces nouvelles autorités administratives indépendantes qu'on n'appelle plus comme ça maintenant, qu'on appelle autorités publiques indépendantes et qui sont dotées de la personnalité morale, autrement dit susceptibles en même temps d'engager leurs responsabilités. Est-ce qu'on n'a pas ce phénomène dédoublement de l'exécutif qui est encore pire?
Exactement, c'est un dédoublement de l'exécutif. Alors, il n'a pas pris aujourd'hui encore une importance considérable parce que l'institution n'a jamais été attaquée de façon directe, parce qu'après tout, on peut considérer, et c'est vrai, qu'elle comporte aussi des avantages permettant des solutions plus rapides de litiges, en permettant des compétences plus rapprochées des matières qui sont traitées. Mais, n'est-ce pas, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui dirait qu'il faut supprimer les autorités administratives indépendantes. Ce serait absurde. Ce serait absurde parce qu'elles correspondent en effet à certaines nécessités. Mais il faut voir que, incidemment et peut-être même insidieusement, elles sont en train de se substituer aux autorités publiques et que leur indépendance, qui est voulue, est très largement défendu avec des textes très précis. Je le vois pour la médecine avec des textes très précis. Mais cette indépendance n'est peut-être pas respectée dans l'application, non pas pour des raisons qui seraient contestables, mais simplement parce qu'il faut une infinité de spécialistes qui seraient donc dispersés et pourraient-ils le faire à côté d'une profession normale, etc. Ça suppose des problèmes matériels qui sont des problèmes très importants qui consisteraient à dire mais il faut 3000 experts pour la haute autorité de santé. On le comprend, c'est normal, mais alors qu'est-ce qu'ils font par ailleurs, etc. Autrement dit, ça suppose tout un système procédural au sens large du terme à propos de ces institutions et on est alors en présence d'un système qui risque au contraire de s'alourdir considérablement.
Et au moment où les textes communautaires, nous verrons dans la troisième émission, nous font l'obligation de mettre en place des organismes, je cite certains textes sur lesquels nous reverrons, présentant une parfaite indépendance, est-ce que finalement aujourd'hui ne se pose pas la question de l'inscription dans la Constitution même du statut des autorités administratives indépendantes? Est-ce que la commission, par exemple, ou le comité Balladur, comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, a évoqué cette question?
Oui, il en a. J'étais témoin, moi, d'une audition d'un représentant, et on en a parlé très directement devant le comité Balladur, et par conséquent, je pense, il y a deux chapitres dans son projet, mais ce projet est vaste, par conséquent, deux chapitres qui concernent la question de la haute autorité, probablement plutôt une extension des compétences du médiateur. L'audition du médiateur devant la commission Balladur a été très importante, très intéressante. Le médiateur est venu lui-même d'ailleurs exposer également ses fonctions devant notre académie. Et il est probable qu'on voudrait peut-être étendre ses fonctions. Étendre ses fonctions, c'est d'ailleurs quelque chose qui est également très difficile à envisager. Parce que si on remonte à la Suède, on voit que la Suède, les médiateurs maintenant, il y en a trois. Mais ils fonctionnent en marge, en quelque sorte, même s'ils rendent beaucoup de décisions et de services. Mais là, on serait en présence d'une France qui deviendrait presque la France des autorités administratives indépendantes. C'est stupide, je dis quelque chose d'excessif. Il n'empêche qu'on est en présence d'une situation de ce genre. Et puis surtout, alors là, l'indépendance en France, elle est donnée par l'élection. Mais imaginer des élections pour remplir toutes les fonctions de toutes ces diverses autorités, c'est impossible. Donc, c'est le gouvernement qui nomme, c'est normal. Il le nomme sous le contrôle du juge administratif, ce qui est normal aussi. Y a-t-il eu des décisions qui ont été attaquées ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'empêche qu'on est en présence d'un système qui comporte ou des lourdeurs ou des risques, incontestablement. Alors justement, cette question étant importante, et à l'Académie des sciences morales et politiques, depuis une année à peu près, en accord avec l'Académie nationale de médecine, nous travaillons avec les membres de ces deux académies, nous avons créé un groupe que je dirige, et c'est la raison pour laquelle vous m'avez interrogé d'ailleurs, sur les autorités administratives indépendantes, en étudiant bien sûr le système de la santé principalement, mais il y a beaucoup d'autres questions juridiques très précises et qui sont une d'entre elles et peut-être une des plus importantes sur le plan juridique. Elle ne peut intéresser que les juristes, mais elle a des effets importants. C'est savoir si les autorités administratives indépendantes disposent d'un pouvoir réglementaire. Si, et ça, c'est la question que nous étudierons la prochaine
dans
fois.
Dans la prochaine émission.
Dans la prochaine, il n'y a pas que celle-là qu'on étudiera. Et il est bien certain que... il y a là une question très importante et les décisions du Conseil d'État du mois de novembre nous mettent en présence de cette question. Autrement dit, on voit naître un problème juridique tout à fait nouveau et à certains égards, on pourrait dire, est-ce qu'il est utile en quelque sorte, n'est-ce pas ?
Professeur.
Alors là, il ne faut pas jouer au pessimisme. Ces autorités, elles sont présentées beaucoup par ceux qui les utilisent comme des défenseurs, des gens qui n'auraient aucun défenseur et qui se trouvent finalement un moyen. Je le vois quand le président de la ARL présente des exemples des questions qu'il a eu à traiter, eh bien on comprend que des gens se sont dressés à lui parce qu'il n'arrivait pas à obtenir gain de cause dans aucun autre système, y compris les systèmes judiciaires. Mais enfin, où est la limite ? Il y a là un problème institutionnel, constitutionnel, qui est important.
Vous venez, professeur, à ma place de poser l'excellente transition vers notre prochaine émission à laquelle nous invitons nos auditeurs juristes et non-juristes parce que néanmoins, ces questions sont aussi tout à fait au cœur d'un certain nombre d'acteurs non-juristes de la société. Professeur, je vous remercie. Peut-être nous
Merci
pouvons conseiller effectivement la lecture de quelques ouvrages sur les autorités administratives indépendantes. En particulier, vous l'avez rappelé, effectivement, les numéros de novembre 2007 de l'actualité juridique du droit administratif qui traite la question de la HALD en particulier, le numéro de regard sur l'actualité d'avril 2007 aussi, qui était paru à la Documentation française,
oui.
L'ouvrage de M. Collet, paru à la Bibliothèque de droit public LGDJ en 2003, qui traitait particulièrement du contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives
oui.
indépendantes, mais qui est très intéressant.
Oui.
Vous avez peut-être vous-même...
Et alors, un des membres de l'Académie, c'est mon confrère M. Baucher, qui fait partie du groupe de travail, vient de publier cette brochure.
Régulation et mondialisation, donc publiée chez l'Harmattan, Pierre Baucher. Il y a aussi sur le site de Canal Académie, donc vous-même, professeur, qui aviez réalisé une communication le lundi 29 octobre 2007 devant l'Académie des sciences morales et politiques sur l'émergence des autorités administratives indépendantes. Enfin, je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez retrouver cette émission en médiathèque. Elle est téléchargeable tant que vous voulez. Merci et à très bientôt, professeur, pour le second volet de notre saga sur les autorités administratives indépendantes. Au revoir.
Au revoir.